Chers frères et sœurs et chers amis, nous arrivons à l'étude numéro 23 concernant la série « L'ascension du vainqueur et son triomphe ». Le titre pour aujourd'hui sera « La dispensation de la grâce de Dieu ». Vous comprendrez que nous sommes que des êtres humains, faillibles. Et il peut arriver que un verset biblique puisse être dit par erreur, involontairement. Et si ça arrive, nous vous demandons sincèrement pardon. Un fait est vrai, beaucoup de ces citations bibliques, comme je suis de langue allemande, je les prends de la version Die Schlatterbibel ou Elberfeld-Bibel et d'autres versions allemandes, mais ce n'est pas volontairement, vous pensez bien, puisque je serai responsable devant Dieu, de dire quelque chose qui serait erroné. Ce serait impardonnable, à mon avis. C'est très sérieux. Donc, le titre est « La dispensation de la grâce de Dieu ». Voyez-vous, chers amis, l'Église possède les plus grandes promesses qu'on peut vraiment dire. Notez 2e épître de Pierre, chapitre 1, versets 3 et 4. Car les richesses incompréhensibles du Christ, Éphésiens 3, verset 8, lui sont données. Ces bénédictions célestes sont si diverses qu'elles ne sauraient être exprimées en une image unique. C'est pourquoi le Saint-Esprit emploie les images les plus variées afin de diviser en rayons nombreux, comme par un prisme, l'éclat de son éternelle lumière. L'Église est en communion avec les trois personnes de l'essence divine, qui sont le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Dans ses relations avec Dieu, c'est une famille dont Dieu est le Père. Romains chapitre 8, verset 15, Galates chapitre 4, verset 6 et Saint Jean chapitre 20, verset 17. Et dont les rachetés sont les membres. Nous en sommes donc les membres. Éphésiens chapitre 2, verset 19. Quant à leur tâche, ils sont ses serviteurs ou esclaves. 1er épître de Pierre, chapitre 2, verset 16. Quant à leur privilège, ils sont ses fils et ses filles. Romains 8, verset 14. Premièrement, nous avons la position des rachetés comme serviteurs et esclaves. Acquis pour Dieu, non avec de l'argent ou de l'or. 1er épître de Pierre, chapitre 1, verset 18. Mais avec le sang et au prix de la vie même de Jésus-Christ. Offenbarung, Apocalypse, chapitre 5, verset 9, et 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 20. Les rachetés ne s'appartiennent plus. 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 19. Ils sont serviteurs de Dieu. Romains 6, verset 22, est de Christ, évidemment. Romains 1, verset 1 et Éphésiens chapitre 6, verset 6. Ils sont à toujours sa possession. Tite, chapitre 2, verset 14, et ses instruments et ses esclaves. Déjà, d'après le code légal babylonien, le roi Amraphel, qui était le contemporain d'Abraham, Genèse 14, verset 1, un maître en marquant au feu son esclave. Cela signifiait sa volonté de ne jamais s'en séparer. Ainsi, et dans le même but, Dieu scelle de son esprit les rachetés que nous sommes, ses serviteurs, ses esclaves. Éphésiens, chapitre 1, verset 13, chapitre 4, verset 30, 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 22. Leur rédemption est en même temps un rachat, leur émancipation en même temps un engagement et leur position de serviteur, un véritable contrat, un contrat de propriété. Premier épître de Pierre, chapitre 2, verset 9, un contrat d'obéissance, Romains chapitre 6, versets 17 et 18, et de protection, Saint Jean chapitre 10, versets 28 et 29. Le mot grec doulos signifie non pas serviteur, mais esclave. Le serviteur s'appartient et reçoit un salaire. L'esclave appartient à celui pour qui il travaille et n'a droit à aucune rémunération, aucun salaire. Saint Luc chapitre 17, versets 9 et 10. Entre parenthèses, c'est mon cas, mais je ne peux rien emporter au cimetière à 86 ans. Donc, le serviteur vend à son maître son travail et pour un temps seulement, la personne même de l'esclave appartient au maître et d'une manière permanente. L'apôtre Paul regardait comme un grand sujet de gloire. Oh là là! Et c'était pas n'importe qui le plus grand comme un sujet de gloire. D'être non seulement serviteur, mais d'être esclave de Christ. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 15 à 18. Vous pouvez voir l'exacte traduction la plus sérieuse, si vous êtes en langue française, dans la version Darby. Mais les autres versions sont fiables et véridiques. Et absolument, on peut compter dessus, croyez-moi. Si je vous dis des fois, version Darby ou une version catholique, comme la version des moines de Marezzo, ou la version de... Il y en a d'autres versions que je prends parfois, n'est-ce pas, comme de l'abbé Crampon. Alors, croyez-moi, c'est sérieux. Et deuxième moment, nous avons la position des rachetés comme fils. Mais le conseil de Dieu est bien plus glorieux encore. Ce qu'il libère de l'esclavage, non seulement il en fait des serviteurs, mais encore il les rend participants de sa nature divine. Deuxième épître de Pierre, chapitre 1, verset 4. Ils seront ses enfants. Romains, chapitre 8, verset 21. Ils seront même ses fils. Romains 8, verset 14, oui, ses fils premiers-nés. Hébreux, chapitre 12, verset 23. Donc, nous sommes ses enfants. Premièrement, nous sommes ses enfants. C'est là l'affirmation des Saintes Écritures lorsque elles parlent des rachetés comme d'hommes nés de nouveau. Nés de nouveau. C'est tellement important. Et s'ils sont appelés ses enfants, ce n'est pas comme par un simple ou une simple déclaration de forme ou par adoption juridique seulement. C'est l'expression d'un enfantement effectif. Jacques, chapitre 1, verset 18. Une réelle nouvelle naissance organique procédant de Dieu lui-même. Saint Jean, chapitre 3, versets 3 et 5, et 1 Pierre, chapitre 1, verset 23. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Premier épître de Jean, chapitre 3, verset 1. Nous sommes, deuxièmement, ses enfants. Gloire à Dieu. Comme fils, nous atteignons la majorité. Dans l'Ancien Testament, Israël possède déjà la qualité de fils. Nous sommes donc ses fils. Romains chapitre 9, verset 4. Et vous pouvez ajouter Deutéronome, chapitre 14, verset 1. Il était le fils premier-né de Dieu parmi les nations. Exode chapitre 4, verset 22. Mais la paternité divine qu'indique l'Ancien Testament, selon Deutéronome chapitre 32, verset 6, Ésaïe chapitre 63, verset 16, et Malachie chapitre 1, verset 6, était basé sur l'acte de création, Deutéronome chapitre 32, verset 6, et sur la rédemption nationale d'Israël hors d'Égypte, Ésaïe 63, versets 11 à 16. Dans le Nouveau Testament, par contre, la filialité requiert une préalable naissance spirituelle personnelle de l'individu et la réception de l'esprit d'adoption. Galates chapitre 4 versets 5 et 6. Israël fut d'abord sous un tuteur, la loi. Galates chapitre 3 verset 24. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. Galates chapitre 3, verset 25. L'Israélite qui accède à la foi atteint donc sa majorité, l'indépendance à l'égard du tuteur et l'affranchissement par rapport à la loi. Galates chapitre 4, verset 1 à 5. Nous sommes, troisièmement, nous sommes ses fils premiers-nés. Comme prémisse de ces créatures, Jacques 1, verset 18, nous sommes les rachetés formant l'Église des premiers-nés inscrits dans les cieux. Hébreux, chapitre 12, verset 23. En tant que premiers-nés, ils ont la position de prêtre. Nombre 8, versets 16 à 18, et premier épître de Pierre, chapitre 2, verset 5. Ils ont la dignité de roi. Apocalypse, chapitre 1, verset 6. ils ont une double portion de l'héritage. Deutéronome 21, versets 15 à 17, et Éphésiens, chapitre 1, verset 3. Ainsi, leur position de fils est complétée du droit de premier-né. Comme enfants, ils ont la vie de Dieu. Comme fils, ils ont la position et la dignité. Comme premier-né, ils ont sa gloire. Dans le titre d'enfant, c'est le côté mystique, organique et métaphysique qui est souligné. Dans celui de fils, c'est le côté juridique et déclaratif. C'est l'apôtre Jean qui met l'accent sur l'enfance. Premier épître de Saint Jean, chapitre 3, versets 1 et 2, et sans oublier le verset 10. Ensuite, toujours la première épître de Saint Jean, chapitre 5, verset 2, tandis que l'apôtre Paul insiste sur la filialité. Romains, chapitre 8, verset 14, verset 9, 19. Je répète pour ne pas me tromper, Romains 8, versets 14 et 19, et ajouter Galates, chapitre 3, verset 26, et le chapitre 4, verset 7. Tout ceci, cependant, laisse intacte la différence fondamentale qui séparera toujours le fils des fils, le premier-né, des premiers-nés, il est le Fils du Très-Haut dans la Déité. Saint Marc, chapitre 14, versets 61 et 62. Ils sont les fils du Père Céleste dans le cadre de l'univers créé. Il est le Fils unique. Saint Jean, chapitre 1, verset 14. Verset 18 et chapitre 3, verset 16. Il est l'héritier de toutes choses. Hébreux, chapitre 1, verset 2. Dieu bénit éternellement. Romains, chapitre 9, verset 5. Il bénit éternellement. Oui, donc eux, ils sont les objets de la grâce. Et toi, mon frère, ma sœur, également. Nous sommes arrachés au péché et à la misère. C'est à cause de cette distinction nécessaire que le Seigneur n'emploie jamais l'expression « notre Père », comme si la relation était commune, mais bien mon Père et votre Père. Saint Jean, chapitre 20, verset 17. Pourtant, il n'a pas honte de nous appeler ses frères et sœurs, car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul, c'est-à-dire le Père. Hébreux, chapitre 2, versets 11 et 12. Les membres de l'Église sont les premiers-nés par rapport à la création rachetée. Mais, en ce qui concerne l'éternité et l'univers, c'est Christ qui est le premier-né. Chers amis, quelles sont les richesses insondable de Christ? Les relations infiniment variées qui unissent le Christ à son Église et l'Église au Christ peuvent s'exprimer par les verbes suivants. D'une part, enseigner et d'autre part, apprendre. d'une part conduire et d'autre part suivre, d'une part gouverner et d'autre part obéir, d'une part aimer et d'autre part aimer en retour, d'une part vivifier et d'autre part être vivifié, d'une part établir et d'autre part sédifier, d'une part bénir et d'autre part être une bénédiction. Donc, reprenons tout cela. Premièrement, nous avons enseigner et apprendre. Christ est le docteur, nous sommes les élèves. Saint Matthieu, chapitre 23, verset 8. Il est le modèle, il est l'exemple à suivre. Saint Jean 13, verset 14 à 15, et la première épître de Pierre, chapitre 2, verset 21. Il a dit, « Apprenez de moi », Saint Matthieu, chapitre 11, verset 29, et Éphésiens, chapitre 4, verset 20. Notre devoir est de faire honneur en toutes choses à l'enseignement de notre Dieu Sauveur, Tite, chapitre 2, verset 10. Deuxièmement, nous avons conduire et suivre. Jésus est le berger et nous sommes son troupeau. Hors de la bergerie d'Israël, Saint Jean 10, verset 1 à 5, et hors des civilisations du monde, il a rassemblé les siens et un troupeau. Saint Jean 10, verset 16. Il est le bon pasteur et comme tel, il a donné sa vie pour ses brebis. Saint Jean, chapitre 10, verset 11 à 15 et Psaume, chapitre 22. Il est le grand pasteur et comme tel, il est sorti de la tombe dans la puissance du sang de l'Alliance éternelle. Hébreux, chapitre 13, versets 20 à 21 et Psaume, chapitre 23. Il est le souverain pasteur et comme tel, il reviendra et donnera la couronne de gloire à tous ceux qu'il a établis sur son troupeau. Premier épître de Pierre, chapitre 5, verset 4 et les versets 2 à 3, ainsi que le psaume, chapitre 24. Dans l'âge présent, comme berger, il remplit un septuple service. Voyons cela. Il nous appelle, Saint Jean 10, verset 3. Il nous conduit. Psaume 23, verset 3. Il nous nourrit. Psaume 23, verset 2. Il nous connaît. Saint Jean 10, verset 14 à 15 et le verset 27. Il nous protège. Saint Jean 10, verset 28 à 30. Il nous guérit. Premier épître de Pierre, chapitre 2, versets 24 et 25. Il nous porte à la maison. Saint Luc, versets 15, versets 5 et 6 et Ésaïe, chapitre 40, verset 11. Troisièmement, nous avons gouverné et obéir. Christ est le Seigneur. Il est le gouverneur et le commandant. Nous sommes ses serviteurs. Premier épître de Corinthiens, chapitre 4, verset 1. Nous sommes ses sujets. Jude, verset 4. Nous sommes également ses soldats. 2 Timothée chapitre 2 versets 3 et 4. Notez aussi 2 Corinthiens chapitre 6 verset 7. Nous sommes donc concitoyens des saints. Éphésiens chapitre 2 verset 19. Nous formons un peuple. 2 Corinthiens chapitre 6 verset 16 et Tite chapitre 2 verset 14. Nous sommes aussi un royaume de sacrificateurs. Apocalypse chapitre 1 verset 6, dont le droit de citer est dans les cieux. Philippiens chapitre 3 verset 20. Oui, dans le royaume du Fils. Colossiens 1, verset 13. Le royaume a sa loi. C'est la loi de Christ. Galates, chapitre 6, verset 2. Aussi croire, c'est en même temps obéir. Alléluia. Avoir confiance, c'est être digne de confiance. Saint Paul, ou si vous voulez l'apôtre de la liberté, parle de garder les commandements. 1 Corinthiens chapitre 7 verset 19. Lui-même ordonne. 2 Thessaloniciens chapitre 3 verset 6. Et conjure. 2 Timothée chapitre 4 verset 1. Pour lui, incroyance est synonyme de désobéissance. Ce n'est pas rien. Avez-vous entendu cela avec les deux oreilles? Pour l'apôtre Paul, être incroyant est synonyme de désobéissance. Romains chapitre 10, verset 3. La conversion étant un acte d'obéissance et de soumission, et oui, j'ai dû le faire et je ne l'ai jamais regretté. Acte 26, verset 19. Quant au message de l'Évangile, c'est un commandement à la repentance. Acte des apôtres, chapitre 17, verset 30. Si le racheté est arraché à la loi du péché et de la mort, Romains 8, verset 1 et 2, et par là même, libre à l'égard de la loi de Moïse, Romains 3, verset 21 et chapitre 7, verset 1 à 6, il n'en est pas pour autant sans loi. Il est sous la loi de Christ. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 21. C'est cette loi qu'il doit accomplir. Galates chapitre 6, verset 2. En marchant dans l'obéissance de la foi, Romains 1, verset 5, chapitre 15, verset 18, et le chapitre 16, verset 26, j'ai dit Romains, la grâce veut régner par la justice. Toujours Romains, chapitre 5, verset 21. Cette loi du Nouveau Testament est la loi de Christ quant à ses origines. Galates chapitre 6, verset 2. La loi de liberté quant à sa nature. Jacques 1, verset 25 et chapitre 2, verset 12. La loi d'amour. Quant à son contenu, Romains 13, verset 8 à 10, et notez Saint Jacques, chapitre 2, verset 8, et Galates, chapitre 6, verset 2. C'est la loi de l'esprit, quant à sa puissance. Romains chapitre 8, verset 2. C'est la loi de l'esprit de vie quant à son effet. Romains chapitre 8, verset 2. C'est la loi parfaite quant à sa qualité. Jacques chapitre 1, verset 25. C'est la loi royale quant à sa dignité. Jacques chapitre 2, verset 8. Dans l'Ancien Testament, c'est comme homme naturel que l'homme devait faire face à la loi de Dieu, étant dans la chair de la... C'est de là que vient l'impuissance de la loi. Romains chapitre 8, verset 3. Or, dans la nouvelle alliance, nous avons la créature, elle est un nouvel homme. Nous devenons une nouvelle femme dans l'Esprit Saint. Oui, de là donc sa victoire, selon Romains chapitre 8, versets 1 à 4. Dans l'ancienne alliance, la loi inscrite sur des tables de pierre restait extérieure, agissant comme l'être qui tue. 2 Corinthiens chapitre 3, versets 3 à 6. Mais dans la nouvelle alliance, Dieu, il inscrit sa loi dans l'entendement. Hébreux 8, verset 10. Et cela sur des tables de chair, par l'Esprit du Dieu vivant. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 3. Entre parenthèses. Et je ne mens pas. Si j'étais sous la loi et qu'il n'y aurait pas eu Jésus-Christ, je n'existerais plus, mais même plus jamais, sous aucune forme, même spirituelle. Ainsi, l'Église est un peuple, nous sommes un peuple qui a pour gouverneur le Seigneur. Jude, verset 4. Le Seigneur Jésus-Christ, vous l'avez compris. Ainsi, l'Église est un peuple, on continue, qui a pour loi sa volonté. Galates chapitre 6, verset 2. Pour richesse, sa magnificence. Éphésiens chapitre 3, verset 16. L'Église est un peuple qui a pour gloire son honneur. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 31. Pour territoire, toute la terre. Romains chapitre 10, verset 18. Pour capitale, la Jérusalem céleste. Galates chapitre 4, verset 26. Quatrièmement, nous avons aimé et aimé en retour. Christ est celui qui aime. L'Église, elle est sa bien-aimée. 2 Corinthiens chapitre 11, versets 2 et 3. C'est comme si un prince oriental découvrait au sein d'un groupe d'esclaves une magnifique jeune esclave qui fasse vibrer son cœur. Il l'achète à grand prix afin de la purifier, de la revêtir d'habits magnifiques et de faire d'elle sa femme en l'élevant au trône royal. Christ, lui, Jésus, exactement de la même manière, nous a aimés alors que nous étions esclaves du péché, surtout moi. Il s'est donné lui-même comme prix de notre rachat. Maintenant, il nous purifie par le lavage d'eau sa sainte parole, sa, on peut dire vraiment, sa vie, se présentera à son Église entière, sans aucune tache, sans aucune ride, c'est-à-dire dans la sainteté et la beauté de l'éternelle jeunesse. Éphésiens, chapitre 5, versets 25 à 27. Dans l'image de l'amour conjugal, toute l'œuvre du Christ pour son Église est contenue dans le choix par son amour. Éphésiens chapitre 5, verset 25. Dans le rachat par le don de lui-même. Éphésiens 5, verset 25. Dans la purification par son pouvoir. Éphésiens chapitre 5, verset 26. Dans la glorification par son retour. Éphésiens chapitre 5, verset 27. Augustin l'avait écrit, ce que Dieu a prédestiné avant que le monde soit, il les a aussi appelés hors du monde. Il les a justifiés dans le monde et il les a glorifiés après le monde. Romains chapitre 8, versets 29 à 30. C'est pourquoi notre vie appartient à lui seul. Notre âme devrait être animée à toujours du premier amour, cet amour que Dieu associe à l'arbre de vie dans sa lettre à l'église d'Éphèse, Offenbarung, c'est-à-dire Apocalypse chapitre 2, versets 4 et 7. L'amour, en effet, c'est la vie. Celui qui n'aime pas ne vit pas, mais celui qui vit de cette vie-là ne peut mourir. Oh oui, comme entre Yahvé et Israël dans l'Ancien Testament, il existe une relation d'amour entre Christ et l'Église, mais à un degré bien plus glorieux. L'Esprit de Dieu emploie la plus haute relation d'amour que connaisse l'expérience humaine pour l'appliquer à la fois à Israël. Osée, chapitre 2, versets 21 et 22, Ézéchiel, chapitre 16, tous les chapitres. Et encore, notez le chapitre 23, tout le chapitre. Ézéchiel, hein? Ensuite, Ésaïe, 62, verset 5, psaume 45, tout le chapitre, cantique des cantiques, et à l'Église, Éphésiens, chapitre 5, verset 31 et 32. La conjonction des deux, c'est la Jérusalem céleste, c'est la cité où demeureront les rachetés, toi, mon frère, et ma sœur. Apocalypse, chapitre 21, verset 2. La cité sainte, la fiancée et la femme de l'agneau. Apocalypse 21, verset 9 et 10. Et, chapitre 19, verset 7. C'est vraiment merveilleux tout cela, ne croyez-vous pas? Merveilleux, merveilleux. Cinquièmement, nous avons vivifié et être vivifié. Une profonde unité de vie découle de la communion organique des membres avec le Christ. Déjà l'image du mariage indiquait cela avec beaucoup de clarté. les deux deviendront une seule chair. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Éphésiens chapitre 5, versets 31 et 32. Le Nouveau Testament compte de nombreuses autres illustrations. Christ est le cep et nous sommes les branches. Saint Jean, chapitre 15, versets 1 à 5, il est la tête et nous sommes les membres. Éphésiens, chapitre 1, versets 22 et 23. Le chrétien est un arbre enraciné en lui. Colossiens 2, verset 7. Une plante, on peut dire. Saint Matthieu, chapitre 15, verset 13. Et ajouter 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 6 à 9. Une plante plantée ensemble avec lui. Romains 6, verset 5. Nous avons la relation des membres à la tête. La plus importante de ces figures est celle du corps. L'apôtre Paul seul en parle vraiment. Elle est l'expression la plus élevée de la communion bénie du Christ avec le croyant. L'appartenance à Christ, oui, on peut dire premièrement l'appartenance à Christ. L'Église est donc son corps, Éphésiens 1, verset 23. Deuxièmement, le service dépendant. Une seule volonté régit le corps, et c'est la tête, Colossiens chapitre 1, verset 18. Troisièmement, la communion directe. Chaque membre est en relation individuelle avec la tête. Il n'y a entre Christ et nous aucun intermédiaire, ni homme, ni ange. 1 Timothée, versets 2 et 5. Il convient que nous nous attachions à la tête. Colossiens, chapitre 2, versets 18 et 19. Il y a des chrétiens sincères qui pensent qu'il faut des intermédiaires humains entre Christ et nous. Je n'ai pas le droit de critiquer, puisque on le leur a enseigné ainsi. Donc, ils n'y peuvent rien. Quatrièmement, nous avons l'amour et les soins. Personne n'a jamais haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'Église. Éphésiens 5, verset 29. Je reviens à la communion directe, que chaque membre est en relation individuelle uniquement avec Christ. Bien sûr, on peut dire que chacun est responsable, ils ont qu'à lire la Bible. C'est plus vite dit que fait. Il y en a qui pensent, sans méchanceté, mais par ignorance, ne les accusons donc pas, que tout ce qu'ils entendent vient de la Sainte Parole, vient du Seigneur, et de ce fait, ils font confiance. Est-ce que dans ce cas, j'ai le droit d'aller critiquer? Non, je n'ai pas le droit d'aller critiquer. En tout cas, c'est mon opinion, ça n'engage que moi. On a dit quatrièmement l'amour et les soins. En effet, personne n'a jamais haï sa propre chair. Mais il la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'Église. Éphésiens 5, verset 29. Cinquièmement, nous avons la vivification et la croissance. La tête est pour le corps qui est la source. Oui, le corps est la source de toute croissance. L'Église s'édifie par l'accroissement que Dieu donne. Colossiens chapitre 2, verset 19. C'est de lui que tout le corps tire son accroissement et s'édifie dans l'amour. Éphésiens 4, verset 10. Sixièmement, il y a la plénitude de la tête comme dernier Adam, mais non en tant que personne divine. Christ ne saurait être complet sans son corps. Le grain de blé sans l'épi serait seul. Saint Jean 12, verset 24. L'Église est donc la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Elle est l'achèvement de celui qui amène à l'achèvement toute chose en tous. Éphésiens chapitre 1, verset 23. À travers tous ces privilèges, l'Église est, septièmement, elle est la manifestation de la vie du Christ. De même que le corps est l'organe par lequel se révèle l'Esprit, ainsi c'est par l'Église qu'est donnée à connaître la sagesse infiniment variée de Dieu. Éphésiens chapitre 8, verset 10. Parce qu'elle est en Christ et Christ en elle. Colossiens 1, verset 27. L'Église est comme la continuation sur la terre de l'incarnation de son Seigneur. En elle, à travers ses membres, le Christ élève, acquiert une forme. Galates chapitre 4, verset 19 est révélé ici-bas, ou plutôt révèle ici-bas, pardonnez-moi, et révèle ici-bas sa vie. Ainsi, sa vie, elle est prolongée dans l'histoire. Nous avons les relations des membres entre eux également. Le corps est aussi la figure la plus expressive de la communion chrétienne. Et à ce sujet, notez 1 Corinthiens chapitre 12. Eh bien, 1 Corinthiens chapitre 12 est le texte principal. Il y a l'unité. Elle est plus profonde que toute unité nationale et plus large que toute communauté internationale. Galates chapitre 6, verset 10. Elle unit indissolublement des hommes et des femmes qui ne peuvent se voir et qui ne peuvent se connaître ici-bas. Étrangers les uns aux autres, ils aiment cependant, selon Colossiens, chapitre 2, verset 1 et 2, comme le corps est un et a plusieurs membres, ainsi en est-il de Christ. 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 12. C'est un organisme, non pas seulement une organisation. C'est le corps de Christ, création de Dieu, et non pas uniquement une œuvre humaine. Le secret de son unité, c'est la tête, c'est Christ. Il a, on peut dire, sept faits. Il a sept faits qui surtout contribuent à l'unité du corps. Il y a un seul corps. Romains 12, verset 5, Éphésiens chapitre 2, verset 16, et il y a un seul esprit. Éphésiens chapitre 2, verset 18. Et, notez encore 1 Corinthiens chapitre 12, verset 11 et 13. De même que vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation, il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Éphésiens 4, versets 4 à 6. Chers amis, l'unité de l'Église, elle est triple. C'est une unité d'esprit, unité de vie. C'est une réalité déjà présente par la foi. Éphésiens 4, verset 3. C'est l'unité de pensée. C'est notre devoir. C'est par l'amour qu'elle peut s'accomplir. Philippiens, chapitre 1, verset 27, chapitre 2, verset 1 à 4, et chapitre 4, verset 2. C'est une unité de connaissance. Le but est une partie de notre expérience. Éphésiens 4, verset 13. C'est une unité de vie qui regarde vers le passé, vers l'œuvre de Golgotha. C'est l'unité qui nous a été acquise à la croix. Ensuite, c'est l'unité de pensée et le devoir du présent. C'est l'unité de dessein, mais pas toujours l'unité absolue d'opinion. Romains 14, verset 1 à 7. Ensuite, c'est l'unité de connaissance et la mesure parfaite. Éphésiens 4, verset 13. La mesure parfaite de notre avenir. Dans les choses nécessaires, c'est l'unité dans les choses indécises. La liberté en toutes choses et la charité. Il y a la diversité. Le corps n'est pas un seul membre, mais plusieurs. Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? Si tout était ouïe, où serait, je vous le demande, où serait l'odorat? 1 Corinthiens 12, versets 14 et 17, et ajoutez Romains chapitre 12, versets 4 à 8. Il y a la dépendance mutuelle. Chacun de nous est limité. Chacun a donc besoin de tous. L'œil ne peut pas dire à la main: je n'ai pas besoin de toi. Ni la tête dire aux pieds: je n'ai pas besoin de toi. Non seulement ils sont dépendants les uns des autres, mais encore Dieu a couvert d'un plus grand honneur le dernier d'entre tous. 1 Corinthiens 12, versets 21 à 25. Il y a là, tant on peut dire, la compassion. Oui, faut pas que je dise quelque chose où la langue fourche. Je répète donc pour que ce soit bien compris. Il y a la compassion mutuel. Ça, croyez-moi, on ne le trouve pas partout, malheureusement. Par exemple, si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 26. D'accord. Il est dans mon cas. Et c'est pas la même chose que si quelqu'un d'entre vous a seulement 40 ans. C'est pas la même chose du tout. À 86 ans, selon les dernières estimations du cardiologue, mon cœur usé, avec une enfance épouvantable, un père qui s'est marié 5 fois, tout le reste vous pouvez l'imaginer, eh bien, c'est déjà un miracle que je suis venu à cet âge-là. Il y a déjà plus de 40 ans que je devrais être enterré. Bon, le cœur, il tape beaucoup moins bien, avec beaucoup d'arythmies, et il dépasse pas beaucoup les 42-43 battements par la minute. C'est pas tout drôle, non, mais je suis prêt pour l'au-delà. Et que vous le croyez ou pas, moi j'ai des fois l'impression qu'il y en a qui prient pour moi. Parce que comment pensez-vous que je pourrais vous donner cette étude sur ce CD ce matin? J'ai commencé à 7h moins 10. Je ne pourrais pas faire cela. Dans un état logique des choses. C'est donc, je suis au bénéfice, disons-le franchement, de miracles. Et j'y suis pour rien. C'est cette merveilleuse, on peut dire compassion. Cette compassion qui est au-delà de tout, qui est et qui vient par l'amour que nous avons, même si nous ne nous connaissons pas du tout, que nous avons les uns pour les autres, que nous prions les uns pour les autres. Sans même nous connaître, on a le droit, le devoir de prier les uns pour les autres. Surtout moi, beaucoup plus encore que vous, j'ai le devoir de prier pour vous tous. C'est mon devoir. Ensuite, il y a, chers amis, le service commun. Chaque membre est au service des autres. Tous servent le corps entier. Ainsi, tout le corps est assisté et solidement assemblé par des jointures et des liens. Colossiens, chapitre 2, verset 19. Bien coordonné grâce à tous les liens de l'assistance du Christ, il forme un solide assemblage et tire son accroissement selon la force qui convient à chaque de ses parties, ou plutôt à chacune de ses parties. Voyez-vous, la langue allemande me joue des fois des tours. Éphésiens, chapitre 4, verset 16. Hein, vous savez que en allemand, c'est « die Sonne » et pour vous, c'est « le soleil ». En allemand, c'est « der Mond » pour vous, c'est la lune. Oui, c'est pas pareil. Bon, Chaque membre a sa tâche. Dans le royaume de Dieu, la communion des enfants de Dieu est une communion dans le travail en vue de la communion dans la victoire. Il y a la croissance commune. Elle se poursuit jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Éphésiens, chapitre 4, verset 13. Sixièmement, nous devons établir et s'édifier, oui, à la figure du corps. L'Écriture sainte lie étroitement celle de l'édification d'un bâtiment. Les deux images sont, on peut dire, entremêlées et l'édifice grandit. Éphésiens chapitre 2, verset 21, voir la version Darby. Oh, mais vous pouvez trouver la même pensée dans la version de les moines de Maritzou, de l'abbé Crampon et de beaucoup d'autres. Donc, l'édifice grandit, Éphésiens 2, verset 21, le corps s'édifie, Éphésiens 4, verset 12, le Christ est la pierre angulaire. N'oublions jamais, 1er épître de Pierre, chapitre 2, verset 6, l'Église est une maison de Dieu, c'est un temple, même si c'est une toute petite salle, un peu obscure, peut-être même dans un bâtiment qui a été autrefois abandonné. Cette image s'applique à la fois à l'Église universelle, Éphésiens, chapitre 2, versets 21 et 22, et la première épître de Pierre, chapitre 2, versets 4 et 5, à l'Église locale, 1 Timothée, chapitre 3, verset 15, et aux chrétiens, individuellement, 1 Corinthiens 6, verset 19, et Éphésiens, chapitre 3, verset 17. Je voulais dire, juste tant qu'on ceci, bien sûr, ne soyez pas trop sévères avec les personnes très âgées, comme moi, quatrième âge, avec un câlin lambert trop étroit, coincé. Ouh, ça fait grincer des dents de douleur. Donc, ne leur en voulez pas à ces personnes très âgées de ne pas pouvoir assister à tous les cultes, à tous les rassemblements divers d'églises. Ayons un peu de compassion, de compréhension. Bien sûr, je ne peux plus m'inscrire pour les Jeux Olympiques. Hein ? Ne soyons pas insensés. Mais croyez-moi, quand j'avais entre 50 et 60 ans, je pouvais faire des choses incroyables. Mais revenons à notre texte. C'est tellement important. Nous avons le fondement. Et le fondement, c'est le Seigneur lui-même. Personne ne peut poser d'autre fondement que celui qui a été posé. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 11. La pierre de fondement de l'Église, c'est la messianité historique de Jésus de Nazareth et la filiation suprahistorique à Dieu telle que la confesse l'apôtre Pierre quand il dit « Tu es le Christ, le Messie, tu es le Fils du Dieu vivant. Sur cette pierre, je bâtirai mon Église. » Saint Matthieu, chapitre 16, versets 16 et 18. Plutôt, Saint Matthieu, chapitre 16, versets 16 jusqu'au verset 18. L'Église de Christ n'a pas été bâtie ni sur l'apôtre Paul, ni sur l'apôtre Pierre. Non, non, non. Donc, nous avons les pierres extraites de deux carrières, des juifs et des non-juifs. Elles sont jointes en un saint temple. Éphésiens 2, versets 11 à 12, et chapitre 2, versets 21 et 22. Des pierres mortes, elles viennent à lui qui est le vivant. Et par l'Esprit Saint, sont elles-mêmes, elles sont rendues vivantes. Premier épître de Pierre, chapitre 2, versets 4 et 5. C'est pour cela que le Nouveau Testament parle non seulement d'une foi en Christ, littéralement foi vers Christ, mais encore d'une foi sur lui. Romains chapitre 9 verset 23. Non, c'est faux. Pardon. Romains chapitre 9 verset 33. 33. Et la première épître de Pétre de Pierre chapitre 2 verset 6. Je répète parce que il faudrait pas par ma faute que quelqu'un soit mené en erreur. C'est donc pour cela que le Nouveau Testament nous parle non seulement d'une foi en Christ, c'est uniquement en lui, ce n'est pas en qui que ce soit d'autre. Littéralement, j'ai dit une foi qui est tournée vers Christ, mais encore d'une foi qui est sur lui, qui vient de lui. Romains 9, verset 20, verset 33. Romains 9, verset 33, et premier épître de Pierre, chapitre 2, verset 6. Donc, chers amis, le but de cette maison, voyons-la de plus près, c'est d'être un temple, c'est d'être une maison spirituelle. Premier épître de Pierre, chapitre 2, verset 5. Les pierres de l'édifice sont en même temps sacrificateurs à l'autel. 1 Pierre chapitre 2 verset 5, Hébreux chapitre 13 verset 10. Les conducteurs sont des colonnes dans le temple de leur Dieu. Galates chapitre 2 verset 9 et Apocalypse chapitre 3 verset 12. Ceci montre déjà que l'Église est une sacrificature. Et septièmement, avant de terminer, nous avons bénir et être fait bénédiction. Je voudrais, pour pas que je l'oublie, ça m'arrive d'oublier. Eh bien, mes chers frères et sœurs, priez davantage pour ceux qui sont vos enseignants. Priez davantage pour vos pasteurs, vos prêtres, vos anciens, pour les missionnaires, femmes, hommes, tous ceux qui, d'une manière ou autre, enseigne les Saintes Écritures. Priez pour eux. C'est tellement important. Car eux ont une grande responsabilité devant Dieu. C'est pas simple, surtout aujourd'hui avec tout le marasme et toutes les idées confuses. Je vous dis franchement, je crois que je serais aujourd'hui incapable d'être un dirigeant quelconque dans une communauté chrétienne. J'en serais incapable avec tout ce qui se passe autour de nous tous les jours. Vulgairement parlé, je pense que je péterais les plombs. C'est un mot d'aujourd'hui, évidemment, qui veut tout dire. Donc, chers amis, prions les uns pour les autres. Et j'ai dit avant de terminer, nous avons, septièmement, bénir et être fait bénédiction. L'Église, comme on l'a compris, est un peuple saint. Premier épître de Pierre, chapitre 2, verset 9. Christ est le souverain sacrificateur. Nous sommes les sacrificateurs. Hébreux 8, verset 1. Et Apocalypse, chapitre 1, verset 6. Et comme tel, nous avons un quadruple service. Premièrement, nous avons l'offrande. Nous devons offrir notre vie. Oui, je dois offrir ma vie comme un sacrifice. Romains 12, verset 1. Nous devons offrir notre piété comme une offrande consumée. Saint Marc 12, verset 33. Nous devons offrir notre service comme une libation. 2 Timothée, chapitre 4, verset 6. Et Philippiens, chapitre 2, verset 17, version Darby. Nous devons offrir nos œuvres comme des sacrifices spirituels. Premier épître de Pierre, chapitre 2, verset 5. Nous devons offrir nos prières comme offrande de bonne odeur. Psaume 141, verset 2. Et Apocalypse, chapitre 5, verset 8. Et nous devons offrir nos louanges comme offrande d'adoration. Vous qui savez chanter si bien, vous qui êtes jeune et qui chantez dans une chorale le dimanche matin, vous offrez ces louanges comme une offrande d'adoration. Nous avons la prière dans sa chambre même, comme autrefois Daniel, dans sa chambre solitaire. Le chrétien, peut-être il y a droit maintenant, une chrétienne âgée, dans son lit, peut-être dans son fauteuil roulant, mais elle prie, et croyez-moi, ses prières ont une valeur inestimable. Oui, le chrétien, la chrétienne, qui qu'elle soit, embrasse le monde entier. 1 Timothée chapitre 2, verset 1 et 2. Elle prie et elle rend grâce pour les autres. L'Esprit Saint intercède pour lui, pour elle, par des soupirs inexprimables, communiquant à sa prière toute l'énergie divine. Romains 8, versets 26 et 27. Croyez-vous que sans l'aide de l'Esprit Saint, je pourrais parler ce matin, depuis 7h moins 10, ce message à mon jeune âge, je plaisante, de 86 ans. Sans l'Esprit Saint, impossible. Vraiment impossible. Dans mon cas. je le reconnais. Et nous avons le témoignage. Surtout si vous êtes un peu plus jeune que moi. Car les lèvres du sacrificateur doivent garder la science. Et c'est à sa bouche qu'on demande la loi, car elle est un envoyé de Yahvé l'Éternel. Malachi, chapitre 2, verset 7. Nous avons la bénédiction. Parle à Aaron et parle à ses fils et dis-leur, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël, vous leur direz, etc., etc. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. Nombre chapitre 6, versets 23 à 27. Ainsi, bénir veut dire mettre le saint nom de Dieu sur quelqu'un. C'est pas rien ça. C'est pour cela que seul sera une bénédiction celui qui conduit les autres vers Dieu par la parole et par le témoignage de sa conduite. Dans la Nouvelle Alliance, le sacerdoce est universel. Chacun a sa portion sacerdotale à l'autel. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 13. Ils forment tous un royaume de prêtres, ce que Dieu voulait déjà pour son peuple dans l'ancienne alliance. Exode chapitre 19, verset 6. Pour chacun d'entre eux, la promesse sera pleinement réalisée. Je te bénirai et tu seras une bénédiction. Genèse chapitre 12, verset 2. Chers frères et sœurs, la prochaine étude, peut-être demain, si Dieu le veut, ce sera l'étude numéro 24 et nous parlerons de la nouvelle alliance. La nouvelle alliance. À bientôt donc, à demain Dieu voulant. Que le Seigneur vous bénisse, parce que croyez-moi, le Seigneur vous aime. Et nous pourrions terminer tout simplement, comme d'habitude, par la prière. Prions donc ensemble. Je ne sais pas si on a le temps. Ouh là là, je ne crois pas. Mais vous pouvez, mes chers amis, prier simplement la prière de notre Père. Elle contient tout. Priez-la. À bientôt, à demain, Dieu voulant. Au revoir, mes chers amis.